Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu. Et nous lirons quelques versets dans le chapitre 24. Évangile selon Matthieu. Au chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, et nous lirons à partir du verset 1er. Matthieu 24, et nous lisons à partir du verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, qui est juste en face de Jérusalem, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps ?» Et Jésus leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Jusque-là, notre lecture pour ce matin. En commençant cette journée, je voudrais remercier la commission permanente et le comité de la convention pour avoir choisi un si beau sujet, n'est-ce pas, pour notre 77e convention. Probablement l'un des plus beaux sujets qu'ils pouvaient choisir. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais aussi les remercier pour la confiance qu'ils m'ont témoignée en me chargeant d'une partie de cette journée, d'un des exposés partagés avec d'autres frères cet après-midi et en début de soirée. Je le ferai donc avec beaucoup de modestie, avec beaucoup de joie, une grande joie, mais aussi avec une pleine conviction et beaucoup d'émotion. Pour plusieurs raisons, parce qu'au travers de l'accomplissement prophétique, c'est comme si nous reconnaissons le doigt de Dieu qui se montre aujourd'hui devant nous. Vous vous souvenez de ces épisodes dans l'Ancien Testament où Moïse devant le Pharaon annonçait des signes qui devaient convaincre Pharaon. À un certain moment, les sages et les conseillers de Pharaon lui ont dit « Attention Pharaon ». Ça, c'est le doigt de Dieu. Et c'était en fait l'accomplissement de ce que Moïse avait annoncé, avait laissé comme prophétie. Et peut-être qu'en ces journées, nous allons faire de même et retenir notre attention pour reconnaître le doigt de Dieu dans les événements que nous vivons aujourd'hui. Une deuxième raison aussi qui explique cette émotion pour moi-même, peut-être pour beaucoup d'entre vous certainement, c'est que la prophétie a tenu dans ma vie chrétienne une part importante. À l'âge de 20 ans, un de ces grands moments dans ma vie, un des tournants dans ma vie chrétienne, j'ai lu entre autres l'un des textes qui a été mentionné tout à l'heure par la librairie Le Bon Livre, le texte de René Pache, « Le retour de Jésus-Christ ». Et ce moment a été d'une grande importance dans ma vie et ce sujet sur lequel je m'étais arrêté m'a aidé et soutenu dans ces premiers pas que je faisais avec le Seigneur. J'ai eu l'occasion entre-temps ou depuis de lire beaucoup d'autres ouvrages, bien sûr, sur ce sujet, entre autres le livre de William Greer, « Le grand dénouement ». Et ici, tout récemment, l'excellent ouvrage de Alfred Kuhn qui fait une comparaison entre les différents types d'interprétations sur ce sujet des prophéties. Avec les livres, c'est aussi, et la parole de Dieu bien sûr, c'est aussi l'actualité qui tient notre attention en éveil sur les questions prophétiques. Parce que ce qui est passionnant aujourd'hui sur ce sujet, c'est que la prophétie vit aujourd'hui. Ce ne sont plus seulement des mots dans un livre ou des phrases dans les textes sacrés, ce sont des événements devant nos yeux, des choses que nous vivons les uns et les autres. Et en quelque sorte, nous sommes en train de voir un grand puzzle prophétique se mettre en place et les pièces s'ajouter les unes après les autres. Et ainsi, comme dans ce grand jeu des puzzles, nous n'avons que de hâte que de trouver les dernières pièces pour terminer l'image qui nous est proposée, compléter le tableau qui fait le jeu. J'aimerais en début de cette journée, en introduction générale sur le sujet qui nous tiendra en haleine toute la journée, j'aimerais rapidement faire avec vous quelques préliminaires sans mordre sur les sujets de mes deux collègues qui prendront la parole cet après-midi et en début de soirée. Premier préliminaire, le Saint-Esprit lui-même dans les Écritures nous invite à nous réjouir sur ce sujet des prophéties. Dans le livre de l'Apocalypse, à deux reprises, au début du livre et à la fin du livre, premier chapitre et dernier chapitre, nous sommes invités à nous réjouir d'étudier la prophétie. Le texte dit en fait « Heureux celui qui lit, celui qui écoute la parole prophétique et qui garde les choses qui y sont écrites ». En quelque sorte, aujourd'hui, nous partageons une journée de joie ensemble parce que nous plongeons nos regards dans la prophétie et que le texte biblique dit qu'ils sont heureux, ceux qui agissent de la sorte et qui prennent du temps pour étudier la prophétie. L'apôtre Pierre lui-même dira « Vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique ». C'est donc une journée de joie que nous allons partager ensemble en nous arrêtant sur ce sujet des prophéties. Un deuxième préliminaire, une invitation à la prudence et à la modestie. L'apôtre Pierre lui-même, un peu plus loin après le texte que je viens de citer, dira que cette parole prophétique est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que la lumière vienne à paraître. C'est-à-dire que l'apôtre compare la prophétie à une lampe qui brille dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous perdons un peu le sens ou la signification de cette image, parce qu'aujourd'hui, nous avons des lampes, des projecteurs qui sont d'une puissance inouïe. Vous avez cette publicité, comme moi, dans les journaux que nous recevons à la maison, qui présente un projecteur qui a la valeur de 2 millions de bougies. Vous avez aujourd'hui des stades en pleine nuit qui sont éclairés comme si nous étions en plein jour. Et cela, comme aujourd'hui, par exemple, également. Et cela fausse un peu la compréhension du texte. Parce qu'au temps où les textes sont écrits, les lampes qui sont utilisées, ce sont des lampes à huile. Ce n'est pas beaucoup plus qu'une bougie. Ce qui veut dire que dans l'étude de la parole prophétique, il reste des zones d'ombre que l'on ne voit pas comme en plein jour. Et c'est probablement aussi pour cette raison qu'il y a différentes écoles d'interprétation et que chacun en tant que chrétien, quelle que soit notre position ou le choix de notre grille d'interprétation, nous devons rester modestes et humbles. Et savoir écouter les frères qui ne partagent pas la même perception sur le terrain de la question prophétique. Modestie et humilité, ce n'est pas le temps des anathèmes ou des excommunications parce que tel frère ou telle sœur ne perçoit pas les détails prophétiques de la même façon que nous. Restons remplis d'humilité et de modestie, d'un esprit de fraternité pour savoir nous écouter les uns les autres. Toutefois, et j'attire ici votre attention, surtout le reste d'ailleurs aussi, évidemment. Aujourd'hui, ce sont les faits et les événements de l'actualité qui confirment notre lecture des prophéties. Et devant les faits ou les accomplissements de certains textes prophétiques, il serait dommage de dire non, tout cela n'a rien à voir avec la prophétie. C'est en quelque sorte l'erreur qu'a commis Israël au temps du Christ. Ils avaient sous leurs yeux, en chair et en os, l'accomplissement des prophéties qui remplissaient les textes de l'Ancien Testament. Mais parce que ce petit rabbi de Nazareth ne correspondait pas à leur attente ou à leur grille d'interprétation des textes prophétiques, les docteurs de la loi l'ont rejeté. Or, ils avaient sous leurs yeux l'accomplissement de ces prophéties en la personne de Jésus de Nazareth, fils de Dieu et fils de l'homme. Il serait dommage aujourd'hui de répéter la même erreur. Et devant les événements qui accomplissent certaines prophéties, de dire non, parce que cela ne correspondrait pas à notre grille, à votre grille d'interprétation des textes prophétiques. Il pourrait paraître plus sage alors, peut-être, de remettre en question notre lecture des prophéties. Troisième préliminaire, peut-être certains pourront s'étonner parmi nous qui ne sont peut-être pas familiers de ces sujets, qui pourraient s'étonner de dire, mais vous êtes en train de faire de la politique ? Mais loin de là, si nous relevons certains faits de l'actualité que l'on pourrait classer dans la sphère du politique, comme on peut dire, aujourd'hui, c'est sur l'aspect prophétique que nous retenons notre attention. Nous ne nous embarquons pas dans toutes des considérations politiques qui n'auraient rien à voir avec notre propos. Cependant, comme ce sont des faits qui aujourd'hui sont devant nos yeux, ben cela rejoint aussi peut-être à certains moments des événements du domaine politique que nous vivons les uns et les autres. Petite parenthèse aussi, si vous lisez attentivement aussi les prophètes de l'Ancien Testament, on pouvait aussi se demander si à certains moments ils ne faisaient pas de la politique, tellement leur texte était lié aux événements qu'ils vivaient. Ce que nous le relevons ici, ce n'est pas l'aspect politique, bien sûr, de ces événements auxquels il sera fait mention, mais la puissance de Dieu, n'est-ce pas, qui accomplit aujourd'hui ce qu'il a promis dans les textes sacrés. Quatrième préliminaire, la prophétie est l'un des phénomènes uniques dans le monde des religions. Un tiers de la Bible est fait de prophétie. On pourrait dire une page sur trois. Ce n'est pas dans cet ordre, vous le comprenez, mais cela nous aide à comprendre l'importance de la prophétie dans les Écritures. Mais pas seulement son importance, mais le caractère unique des prophéties ou du phénomène prophétique dans le monde religieux. Vous ne retrouvez cela nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, ni dans l'islam, ni dans le bouddhisme, ni dans le confucianisme, ni dans la Bhagavad Gita, ni dans le livre des morts tibétains, ni dans, chez Gandhi, ni chez le Dalai Lama, ni chez Lao Tzu, nulle part. C'est un phénomène unique dans les Écritures. Pascal, le grand savant et grand chrétien qu'il fut, avec sa sagesse et son discernement intellectuel et spirituel, disait ceci au sujet des prophéties. Quand un seul homme aurait fait un livre de prédictions sur Jésus-Christ et que Jésus-Christ serait venu conformément à ses prophéties, ce serait une force infinie. Mais ici, il y a plus. C'est une suite d'hommes durant 4000 ans qui constamment et sans variation viennent l'un après l'autre prédire ce même avènement. C'est un peuple tout entier qui l'annonce et qui subsiste depuis 4000 années pour rendre témoignage des assurances qu'ils en ont. Ceci est tout autrement considérable. Et il ajoutait, la plus grande des preuves de Jésus-Christ, ce sont les prophéties. C'est à quoi Dieu a le plus pourvu, car l'événement qui les a remplis est un miracle. Quel beau texte, n'est-ce pas? Quel beau texte! On pourrait dire, en paraphrasant Pascal, qu'aujourd'hui, nous avons encore devant nos yeux ces miracles de la prophétie. Les prophéties qui s'accomplissent aujourd'hui sont en quelque sorte autant de preuves de l'authenticité et de la fiabilité des textes que nous avons dans l'Écriture. Ainsi, la Bible est un livre unique au monde. Et chaque chrétien doit le savoir et se le répéter en ces temps où la Bible est tellement discréditée. Elle reste un livre unique, elle reste la parole de Dieu et les prophéties en sont quelque sorte la meilleure des preuves. D'ailleurs, n'est-ce pas, Dieu lui-même se présente comme ayant le monopole de la prophétie ou de la prédiction. Dans les chapitres 41 à 46 du prophète Ésaïe, nous sommes témoins d'un réquisitoire implacable de Dieu sur le peuple élu, sur le peuple d'Israël. Face à l'orgueil d'Israël, Dieu remet les horloges à l'heure et déclare solennellement « C'est moi qui vous ai créé, qui vous ai choisi, qui vous ai racheté. C'est moi qui suis votre rocher. C'est moi qui suis Dieu. » La preuve, c'est moi qui annonce les événements à venir. Et au chapitre 45, au verset 21, en arrivant au sommet de cette plaidoirie de Dieu contre le peuple d'Israël, le Seigneur dit « Qui a prédit ces choses ?» dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées, n'est-ce pas moi, Yahvé, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. » Dieu se présente ainsi comme ayant le monopole de la prophétie parce qu'il est Dieu. Dans le chapitre 43, les revendications du Seigneur ne concernent pas seulement d'ailleurs Israël et la démonstration concerne toutes les nations. Chapitre 43 du prophète Ésaïe, « Que toutes les nations se rassemblent, dit l'Éternel, et que tous les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins? Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. C'est moi, dit l'Éternel, qui ai annoncé, sauvé et prédit. Nul ne l'a annoncé, personne ne l'a prédit. C'est moi, dit l'Éternel, qui l'ai annoncé. Comment, en effet, n'est-ce pas, un homme pourrait-il annoncer avec précision non seulement un événement, mais des dizaines d'événements, une cascade d'événements qui doivent venir, parfois pour certains des centaines ou des milliers d'années, après le énoncé, dans le chapitre 42, toujours du prophète Ésaïe, le Seigneur dira « Je suis l'Éternel, je suis Yahvé. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » C'est donc bien de cette façon que dans le prophète Ésaïe, le Seigneur se présente comme ayant le monopole de la prophétie. Venons-en maintenant au signe du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Premier signe, Israël. Premier signe, Israël. Le retour du peuple juif sur la terre d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. La résurrection de la nation d'Israël et l'existence de l'État d'Israël. Pendant 2000 ans, le pays d'Israël est devenu un désert, comme les prophètes l'avaient annoncé d'ailleurs, comme Moïse l'avait déjà annoncé. Les dossiers de photos d'archives sont la preuve irréfutable de ces vérités bibliques. Le pays était devenu un désert, un pays entier à l'abandon. Pendant 2000 ans, pas un mot sur le pays d'Israël, sur la terre d'Israël. Et pour la première fois de son histoire, après l'an 70, le peuple d'Israël sera dispersé parmi toutes les nations, pas seulement déporté à Babylone, comme les prophètes aussi l'avaient annoncé, mais une prophétie qui concerne la dispersion d'Israël parmi toutes les nations. Souffrance, rejet, mépris, massacre, ghetto, pogrom, en arrivant au sommet de l'horreur pendant les années 40-45, 6 millions de Juifs exterminés en Europe, dans nos pays. Tout le monde pense que c'en est terminé d'Israël. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et il faut que les prophéties s'accomplissent. Et puis, brusquement, les événements se précipitent. 14 mai 1948, proclamation de l'État d'Israël. Le peuple renaît de ses cendres, au propre et au figuré, et sans manquer de respect, bien sûr, pour l'épreuve de cette nation. La nation d'Israël existe de nouveau au plan des nations. La terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils sont là, sur leur territoire, avec un gouvernement, une armée, un drapeau, une monnaie, une langue, une constitution. C'est un miracle. C'est le miracle de Dieu au XXe siècle, à la face de toutes les nations. Ce n'est pas un petit événement qui se passe dans les coulisses. Aux yeux de toutes les nations, pour le reste de l'histoire. En 2008, c'est le mot qu'a employé le président Nicolas Sarkozy pour Israël, lorsqu'il était en visite en Israël et à la tribune de la Knesset. Il a dit, entre autres, ceci au sujet d'Israël. C'est un miracle et l'un des événements les plus importants du XXe siècle. Un miracle! Alors, on pourrait comprendre que ce soit des pasteurs ou des évangélistes ou des théologiens qui emploient l'expression, mais ce n'est pas le cas ici. C'est un homme de la politique, de ce monde des politiciens, mais qui ose employer ce mot « miracle » pour parler d'Israël et de l'État d'Israël. David Ben-Gourion, d'ailleurs, qui fut le premier ministre d'Israël, a dit ceci « En Israël, celui qui ne croit pas au miracle n'est pas réaliste. » En 1998, je prends dans l'actualité, n'est-ce pas, pour ne pas nous enfermer dans nos conceptions chrétiennes. On l'ouvre, n'est-ce pas? On l'ouvre aux choses de l'actualité. 1998, 50e anniversaire de la création de l'État. La revue Paris Match, qui tire un numéro spécial en titre « Le jour où Israël est né », à l'intérieur des images, des photos, plus ce commentaire. Je prends juste une phrase, pas dans un journal chrétien, dans une de nos bonnes publications évangéliques. À l'occasion du 50e anniversaire de la création de l'État d'Israël, Shimon Peres commente les images de ce miracle. Miracle! La prophétie qui s'accomplit aujourd'hui sous nos yeux. Que penser, n'est-ce pas, sinon à cette vision du prophète Ézéchiel dans le chapitre 37, la vallée des ossements, où le Seigneur dit « J'ouvrirai vos sépulcres et je vous ramènerai, je prendrai les Israélites de toutes les nations où ils sont allés et de toutes parts et je les fais revenir sur la terre d'Israël. » Quelqu'un dira, mais pasteur, mais ils ne sont pas convertis. Mais vous savez, Dieu ne travaille pas seulement avec les convertis. Dieu ne travaille pas et n'œuvre pas seulement dans nos églises. Dieu est le maître des nations et des peuples, et c'est lui qui conduit les peuples et les nations pour accomplir sa volonté. Et entre autres, afin que la prophétie soit accomplie. Jésus a dit, il ne disparaîtra pas un seul iota jusqu'à ce que tout soit arrivé. Premier signe, l'État d'Israël. Devant nos yeux, pas des choses qu'on nous annonce, qu'on nous promet, là, maintenant, sous nos yeux. Deuxième signe que je retiens pour cette matinée, Jérusalem. Jésus a dit, Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Luc 21 au verset 24. Dans le plan d'amour de Dieu, Jérusalem a toujours tenu une place d'honneur. Non pas, et on souligne, n'est-ce pas, non pas parce que les habitants de Jérusalem sont meilleurs qu'ailleurs, parce qu'ils seraient plus purs ou plus justes ou plus courageux ou plus honnêtes ou plus croyants. Pas du tout. Vous allez aujourd'hui à Jérusalem, c'est comme l'une de nos grandes villes modernes, n'est-ce pas ? Et les habitants ne passent pas leur journée à genoux ou dans la prière, loin de là. Et la jeunesse fait partie de cette jeunesse comme nous la connaissons aussi dans nos grandes villes. Ce n'est donc pas à cause des qualités particulières que Dieu aurait, pas du tout. Il s'agit d'un choix, d'une décision souveraine de Dieu sur cette ville, sur ce lieu. Même dans la Nouvelle Alliance. Dans le livre des Chroniques, au chapitre 6 et au verset 6, nous lisons ces paroles. « Le Dieu d'Israël a dit de sa propre bouche, « Je choisis Jérusalem. » Et à d'autres endroits encore, « Je choisirai encore Jérusalem. » C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui, dans le plan de Dieu, une place pour cette ville de Jérusalem. Avant même que la ville existe, Dieu avait consacré cette région du monde pour qu'elle entre dans son plan. Déjà au temps d'Abraham, n'est-ce pas, quand il nous est dit que le Seigneur envoie et conduit Abraham sur la montagne de Morija avec son fils Isaac. C'est quoi la montagne de Morija ? C'est Jérusalem ? C'est l'emplacement de Jérusalem, de la ville, là où Salomon va construire le temple, le premier temple, là où sera construit le second temple, là où le Fils de Dieu sera jugé, condamné et crucifié, là où aura lieu la résurrection de Jésus-Christ, à Jérusalem, là où il est remonté au ciel dans la gloire du Père, là où les anges ont annoncé son prochain retour, là où il reviendra en gloire. Pendant 2000 ans, n'est-ce pas, Jérusalem a été comme une ville oubliée sur l'échiquier des nations, à part peut-être un sursaut au temps des croisades. Mais peu de choses. Depuis 60 ans, avec le réveil prophétique, Jérusalem est devenue la ville la plus convoitée au monde. La ville la plus convoitée au monde. 1 milliard de musulmans, 1 milliard de chrétiens, des dizaines de millions de juifs. Mais pas seulement convoitée, mais aussi la ville la plus dangereuse du monde. Jérusalem est en quelque sorte le point le plus chaud de la planète, la ville de tous les dangers. Et ceci rejoint en quelque sorte la prophétie que le prophète Zacharie avait laissée de la part du Seigneur. « Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour toutes les nations. » une pierre pesante pour les peuples, et quiconque voudra la soulever se blessera. Chers amis, de toute l'histoire de l'humanité, il n'y a qu'une génération qui a vu et qui voit l'accomplissement de cette prophétie. C'est notre génération. Jamais auparavant, Jérusalem n'a été une pierre pesante pour les peuples. Au contraire, elle a certainement été une ville oubliée parmi toutes les nations, sans aucune importance, ni stratégique, ni politique, ni économique, ni religieuse au plan international. Le silence, le désert. Et puis depuis 60 ans, cette ville devient l'une des villes les plus importantes de l'échiquier mondial. Et cette tension, n'est-ce pas, sur la ville de Jérusalem, annoncée par le prophète lorsqu'il dit qu'elle sera une pierre pesante pour tous les peuples. Et tous ceux qui voudront la soulever en seront blessés. Mais c'est ce que nous entendions quotidiennement aujourd'hui, sur nos chaînes de radio ou de télévision ou dans la presse. Cette tension ne cessera d'augmenter avec le temps qui passe pour en arriver à l'accomplissement d'une autre prophétie du prophète Zacharie. Un jour, toutes les nations se rassembleront autour de Jérusalem pour en faire le siège. Aujourd'hui, le point le plus chaud de la planète, ce n'est pas en Corée du Nord, même s'il y a des menaces là-bas. Ce n'est pas en Iran, ce n'est pas en Irak, ce n'est pas le Kosovo, c'est Jérusalem. En 1971, le président Richard Nixon disait déjà à l'époque, n'est-ce pas, le plus grand danger d'affrontement entre les USA et l'URSS se trouve en Israël. Aujourd'hui, on pourrait dire que les mâchoires, n'est-ce pas, de l'étau se resserrent encore sur cette ville de Jérusalem et sur une partie toute spéciale de la ville de Jérusalem, sur l'esplanade du Temple, là où avait été implanté le Temple de Salomon, là où le Temple d'Hérode fut construit, le temple que Jésus a connu, là où se trouve aujourd'hui la mosquée du Dôme du Rocher. On pourrait dire, n'est-ce pas, que c'est le kilomètre carré le plus chaud de toute la planète, l'équivalent de quelques terrains de football, cette esplanade du temple à Jérusalem. Et le peuple là-bas d'Israël se trouve dans ce paradoxe, c'est qu'il est maintenant, la nation est sur la terre de ses ancêtres, Jérusalem est la capitale d'Israël, mais aucun juif ne peut se rendre sur le mont du Temple. Cela leur est interdit et Israël veut aujourd'hui ce morceau de terre et l'islam ne veut pas lâcher ce morceau de terre. Ce qui a fait dire à l'ancien maire de Jérusalem, qui a été ensuite premier ministre en Israël, Ehud Olmert, il disant ceci, « Où nous avons le mont du Temple, où nous n'avons absolument rien. » Question, mais pourquoi veulent-ils le mont du Temple? Pour y planter des oliviers? Mais non, n'est-ce pas? Pour y construire le temple. Et pourquoi construire un temple? Mais pour accueillir le Messie qu'Israël attend toujours. David Ben-Gourion, qui fut, je l'ai dit tout à l'heure, le premier ministre d'Israël, a dit aussi, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, ne parlez pas à nous, n'est-ce pas, enfin, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, nous vivons des temps messianiques. Ce qui veut dire qu'il y a toujours au cœur de la nation d'Israël, même si ce n'est pas de la même façon que nous le comprenons, il y a chez eux cette attente du Messie. C'est-à-dire que depuis leur rentrée au pays, il y a en quelque sorte comme une dynamique prophétique qui s'est enclenchée, qui ne pourra pas faire marche arrière, des événements irréversibles et qui s'attirent l'un l'autre vers l'avant, vers l'accomplissement des prophéties. Ainsi, la terre d'Israël appelle le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël appelle la capitale Jérusalem. Et Jérusalem appelle le temple, et le temple appelle le Messie. Évidemment, le Messie qu'ils attendent n'est pas le Yeshua de Nazareth que nous connaissons, que nous aimons, que nous croyons, qu'il nous a rachetés. Ce n'est pas ce Messie-là qu'ils attendent, ils l'ont rejeté. Eux attendent un Messie politique, un faux Messie qui fera de fausses promesses, un faux Christ, un antichrist qui sera séducteur, ambitieux, trompeur, qui trompera Israël, mais pas seulement Israël, le monde entier, ainsi que nous annoncent les prophéties. Premier signe, Israël. Deuxième signe, Jérusalem. Troisième signe, l'Europe. La reconstitution de l'ancien empire romain. Cette perception de l'actualité se base sur l'interprétation d'un des textes de Daniel, chapitre 2, le grand chapitre de la vision de la statue du roi Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor. Pour faire court, ce quatrième empire, dans la vision que le Seigneur donne au roi et ensuite interprété par le prophète Daniel, ce quatrième empire sera le dernier empire dans la vision du prophète. Le quatrième empire, dans la succession des empires, c'est l'empire romain, et que l'on voit renaître aujourd'hui sous la forme de l'Europe. Mais ce qui est étonnant, n'est-ce pas, c'est que beaucoup de théologiens ont annoncé ces événements bien avant l'accomplissement de ces choses qui sont maintenant sous nos yeux. Mais le plus étonnant encore, c'est que des historiens, des politiciens, des journalistes qui n'ont rien à voir du tout avec la prophétie biblique ou avec nos milieux évangéliques ou nos milieux croyants, les milieux chrétiens, ce sont eux, journalistes, politiciens, écrivains, etc., qui voient dans l'Europe actuelle le réveil de l'ancien empire romain. Cela veut dire à souhait que cette vue de l'histoire ou cette perception des événements n'est pas une élucubration ridicule, sans fondement, de quelques fanatiques chrétiens illuminés. Ce sont des faits de l'histoire. Je vous donne trois justifications, si nécessaire, tirées de l'actualité et du monde non chrétien, et qui perçoit les choses de la même façon. L'historien, premièrement, l'historien français François Fontaine, a écrit un livre en 1985 qui a pour titre « D'or et de bronze ».« D'or et de bronze ». Il était interviewé à l'époque par le journal Paris Match, entre autres, et il faisait dans son exposé une comparaison entre l'ancien empire romain et l'Europe d'aujourd'hui. Je tire une phrase de son interview. Le monde moderne a déjà existé il y a 18 siècles. Il s'appelait l'Empire romain. C'était la préfiguration de l'Europe actuelle avec son marché commun et son rayonnement universel. Mais c'est ce qu'on enseigne dans les facultés de théologie, dans les instituts depuis une centaine d'années. Parce que les prophéties annoncent ce quatrième empire, terrible, plus terrible que tous ceux qui l'ont précédé. Deuxième exemple, dans la revue Elf Magazine, qui n'a rien du tout à voir avec les milieux chrétiens, Yves Thibault de Silguy, qui est commissaire européen chargé des affaires économiques, monétaires et financières, qui dit ceci: le 1er janvier 1999, l'Europe aura sa monnaie, l'euro. Une première depuis la chute de l'Empire romain. Mais quelqu'un qui a été instruit dans, ou qui a pris du temps pour les prophéties et qui lit des choses pareilles, mais il se dit, mais c'est ce que la Bible annonce, mais depuis des siècles. Et nous l'avons maintenant devant nos yeux. Troisième exemple, il y a plusieurs années, sur la chaîne de télévision Arte, il diffusait un reportage sur l'Europe. Je regarde, et puis voilà, au beau milieu de l'exposé, du documentaire, un membre de la famille Rothschild, le baron de Rothschild, sur le plateau de télévision avec le journaliste, il raconte quelques détails sur le jour où fut signé le traité de Rome, qui était un des traités fondateurs de l'Europe. Et il raconte comme ça devant le journaliste, moi je regarde, je ne sais pas ce qui va se passer, j'écoute, il explique ce qui se passe sur le plateau, il raconte que le soir de la signature, il était sur un des balcons des hôtels là-bas à Rome, le jour où on avait signé le traité, et il était avec notre ministre, Paul-Henri Spaak. Et il rapporte, le baron de Rothschild, que le ministre Paul-Henri Spaak lui a dit « Nous venons de reconstruire l'ancien empire romain sans tirer un coup de fusil. » Nous venons de reconstruire l'ancien empire romain sans tirer un coup de fusil. Ces exemples, je crois, montrent à souhait que ce n'est pas l'imagination des chrétiens qui voient dans l'Europe la reconstruction de l'ancien Empire romain. Cela veut surtout dire que la prophétie de Daniel 2 s'accomplit aujourd'hui devant nos yeux, que nous sommes témoins de l'accomplissement de ces prophéties vieilles de milliers d'années. Maintenant, elles sont là devant nos yeux, sur nos écrans de télévision, à la radio, dans la presse, dans les revues. Cela veut dire que cet empire romain reconstitué est en place maintenant et que c'est une des pièces supplémentaires du puzzle prophétique qui est maintenant en place. Aujourd'hui, en quelque sorte, nous sommes dans les dernières phases de la prophétie biblique, dans les pieds de la statue, pour ceux qui sont familiers de ces textes. Peut-être plus loin, dans les orteils de la statue, où le Seigneur dévoile à son prophète, et pas seulement à lui, mais aussi à nous, le développement de l'histoire de l'humanité, jusqu'à son aboutissement. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit devant nous. La parole des prophètes qui vit. Quand en plus vous entendez, il y a quelques jours, 28, 29, 30 octobre, à Bruxelles, dans notre bonne Belgique, à Bruxelles, 27 chefs d'État européens qui proposent et qui se réunissent, n'est-ce pas, pour proposer un président permanent plus un ministre des Affaires étrangères pour l'Europe. Mais on se dit, mais ils sont en train de dérouler le tapis rouge pour celui qui doit venir un jour, l'Antichrist. C'est à tomber à la renverse, ou alors plutôt à tomber à genoux, comme l'apôtre Paul, n'est-ce pas, dans les chapitres 9, 10 et 11, lorsqu'il survole le plan de Dieu et qu'il termine dans la louange en célébrant la grandeur et la puissance de Dieu qui accomplit ses plans. En quelque sorte, n'est-ce pas, on pourrait dire qu'on entend les pas de l'Antichrist dans le corridor des prophéties qui s'accomplissent. Notez bien encore que ces trois signes que je venais d'évoquer, plus un quatrième sur lequel je viens, qui annoncent le retour de Jésus-Christ, ne se sont jamais produits auparavant dans l'histoire. Personne depuis, oui, mais ça s'est déjà passé, c'est arrivé. Quatrième signe, le phénomène de mondialisation. C'est dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse qu'il est question d'un pouvoir mondial entre les mains d'un seul homme, que la Bible appelle, entre autres, à différents endroits, l'Antichrist. Depuis des décennies, n'est-ce pas, les chrétiens savent, par les prophéties, qu'un jour, un pouvoir mondial se mettra en place. Dire cela, il y a encore 50 ans, n'est-ce pas, une soixantaine d'années, c'était de l'utopie. C'était de la folie, pas de la folie douce, mais de la folie pure. C'était de la démence religieuse. Aujourd'hui, nous vivons l'événement. Et une fois encore, la prophétie devient histoire, sous nos yeux. En 1990, pour la première fois, l'expression « le nouvel ordre mondial » a été employée par le président des États-Unis, George Bush, senior, pour la guerre du Koweït. Et c'est lui, lors d'une des conférences aux États-Unis, qui a employé la première fois cette expression « le nouvel ordre mondial ». Tous les chrétiens ont commencé à tendre l'oreille parce que ces choses rejoignent ce que nous avons lu ou ce qu'on nous a appris au sujet des prophéties, que devait un jour se mettre en place un gouvernement mondial. Depuis ce jour, depuis cette date, 1990, on ne cesse de parler de la mondialisation, banque mondiale, commerce mondial, économie mondiale, agriculture mondiale, éthique mondiale, pensée mondiale, justice mondiale, tribunal mondial. Et bientôt, une monnaie mondiale. Et certaines institutions mondiales sont déjà en place maintenant. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et beaucoup d'autres. Nous venons, pour nous ramener à l'actualité toute concrète sous nos yeux encore, nous venons de vivre une crise mondiale qui a fait trembler le monde. Mais quelles seront les conséquences de cette crise que nous venons de vivre sur le plan prophétique, sur le plan des textes bibliques? Mais tout cela va accélérer le processus de mondialisation. C'est déjà ce qu'on entend, ce qui veut dire l'accélération aussi de l'accomplissement des prophéties. Et tout cela préparera le surgissement de ce personnage dont la Bible nous parle et qui porte ce nom, entre autres, d'Antichrist, d'homme de péché, le sans-loi, qui ira jusqu'à se proclamer Dieu. Ainsi que l'apôtre Paul en parle dans l'épître aux Thessaloniciens. Aujourd'hui, n'est-ce pas, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le monde entier est à la portée d'un seul homme. À la portée d'un seul gouvernement. Tous les grands dictateurs de l'histoire ont rêvé, n'est-ce pas, de dominer le monde. Napoléon, Hitler, Staline, Alexandre le Grand, Hannibal, César, leur rêve, dominer le monde. Ils n'y sont pas arrivés. Qu'est-ce qui leur manquait? La technologie. La technologie, ils avaient l'intelligence, ils avaient. Il leur manquait la technologie. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une domination mondiale devient possible. Un gouvernement mondial devient histoire. Non pas seulement encore un rêve, mais un but. En 2001, Jacques Attali, qui fut l'éminence grise du président de la République française, François Mitterrand, en 2001, Jacques Attali disait dans un article du journal Le Soir, « Il faut un État mondial. » Il faut un État mondial. Et les chrétiens, sous un autre plan, disent, « Il faut que la prophétie s'accomplisse. » Parce que ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Il y a encore une quinzaine d'années, n'est-ce pas? On pouvait rire. On pouvait rire de ces choses, de ces prophéties bibliques de l'Apocalypse, où il était question d'une marque sur la main et sur le front qui permettrait de vendre et d'acheter. Mais aujourd'hui, plus personne ne rit, vous savez. C'est de la réalité, c'est pour maintenant, c'est pour aujourd'hui, c'est déjà hier. Dans le journal Le Vif L'Express de novembre 1999, à la veille de l'an 2000, du 21e siècle, les journaux s'étaient consacrés pour certaines projections futuristes sur les années 2000. Le journal L'Express du novembre 1999, en titre, première page, « L'argent dans la peau ». Je cite un extrait de cette interview. « En 2024, trois Belges sur quatre disposent dans la main d'une puce qui leur permet de réaliser une multitude d'opérations quotidiennes, en particulier leur paiement, vendre et acheter. Dieu nous donne, n'est-ce pas? Ou en quelque sorte, Dieu donne rendez-vous à l'histoire. La prophétie, les prophéties vivent et nous vivons la prophétie en direct. Notre génération, nous vivons la prophétie en direct. Et Dieu manifeste sa puissance et sa souveraineté parce qu'il est le maître de l'histoire. Et ce qu'il a annoncé par les prophètes, il l'accomplit aujourd'hui. On pourrait en quelque sorte dire que nous sommes spectateurs d'un grand film qui se déroule sous nos yeux et dont Dieu a donné une copie du scénario à ses prophètes. Je redis. Nous sommes aujourd'hui spectateurs d'un grand film qui se déroule sous nos yeux, dont Dieu a donné une copie du scénario à ses prophètes. Et nous pouvons, notre génération, vivre ces événements avec un œil dans les Écritures et un œil sur l'actualité. Lire ce que Dieu annonce et voir de nos yeux ce que Dieu réalise aujourd'hui. Parce que sa parole est vérité. Pas seulement les prophéties, mais toute sa parole est vérité. C'est ce que Jésus nous a dit. Ta parole est la vérité. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité depuis la venue de Jésus-Christ, nous avons une copie du scénario dans les mains et sous les yeux défilent les images du film que Dieu lui-même réalise sur l'échiquier mondial. Notre génération, n'est-ce pas, est une génération exceptionnelle. Et nos enfants qui nous suivent vont voir aussi encore la suite de ces choses. C'est comme si aujourd'hui vous entrez dans une maison complètement éteinte, porte-fenêtre, pas de lumière, et puis brusquement quelqu'un ouvre le teco et toute la maison s'illumine. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Depuis qu'Israël est rentré dans son pays, Dieu a levé le teco des prophéties. Et toute la maison s'illumine. Et toutes les pièces du puzzle se mettent en place à une vitesse, n'est-ce pas, qui nous étonne nous-mêmes, nous qui savons ces choses. Comme si les choses s'accéléraient encore avec le temps qui passe. Pendant 2000 ans, les prophéties ont été en quelque sorte comme en sommeil. Non pas parce que Dieu dormait, mais parce que Dieu préparait aussi toutes choses. Et puis brusquement, il y a une soixantaine d'années, les prophéties sont remises. Le chronomètre prophétique est remis en marche et les accomplissements prophétiques se succèdent à une cadence étonnante. On pourrait paraphraser cette parole du Christ à sa génération quand il disait « Heureux vos yeux parce qu'ils voient ce qu'ils voient, parce que vos oreilles entendent ce qu'elles entendent. Beaucoup ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Beaucoup ont voulu entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mes chers amis, on peut dire ça aussi pour nous aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens qui nous ont précédés auraient voulu voir ces choses que nous voyons aujourd'hui, entendre ce que nous entendons aujourd'hui. Ils ne l'ont pas vu ni entendu aujourd'hui. Augustin n'a rien vu de tout cela. Luther, Calvin, Spurgeon, Wesley, certains d'entre eux en ont parlé à petits mots, sans rien voir. Nous, nous avons ces faits devant nos yeux, sur nos écrans d'ordinateur, sur nos écrans de télévision, devant nos yeux. Je termine. Les signes sont là avec d'autres que nous aurions pu aussi évoquer. Les signes sont là sous nos yeux, mais ce ne sont pas seulement des signes, n'est-ce pas? Ce sont aussi des preuves. Ce sont aussi des preuves. Premièrement, des preuves que Dieu existe. Parce que c'est lui qui a annoncé ces choses dans les Écritures. C'est lui, le Dieu vivant, qui conduit les nations pour leur donner rendez-vous là où il veut, et quand il veut, pour que s'accomplisse ce qu'il a dit. Signes et preuves de l'existence de Dieu. Et peut-être parmi nous, quelques-uns, ne sont pas encore venus à Jésus-Christ, ou mettent en doute, mais est-ce qu'il y a bien un Dieu ? Mais les prophéties, n'est-ce pas, et l'accomplissement de ces prophéties sont pour eux un signe, une preuve de l'existence de Dieu. Deuxièmement, signe et preuve que Dieu est souverain. Il nous arrive de vivre les uns et les autres des moments difficiles dans notre vie chrétienne, des événements que nous ne contrôlons pas et pour lesquels nous nous demandons, mais est-ce que Dieu reste bien le maître de toutes choses? Et il reste le maître de toutes choses. Même quand nous passons au travers de l'épreuve, même quand nous sommes dans les peines et dans les larmes, il reste le souverain. Signe et preuve de la souveraineté de Dieu. Signe et preuve aussi que la parole de Dieu est digne de confiance. Tous ceux qui ont fait confiance et qui continuent de faire confiance à la parole de Dieu ont fait le bon choix. Tu fais confiance à la parole de Dieu, tu fais confiance à ce qu'ont dit les prophètes, à ce qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ, ses apôtres. Tu as raison. Et le monde de la prophétie est en quelque sorte une preuve et un signe que Dieu te donne. Garde confiance dans le Dieu de la Bible, le Christ qui est annoncé, le Seigneur qui sauve. Garde confiance, même lorsque ta foi est secouée. Mais peut-être aussi parmi nous, certains qui n'ont pas encore mis leur confiance en Jésus-Christ ou qui hésitent, qui attendent. Je termine en revenant au premier paragraphe que j'ai évoqué avec vous, le prophète Ésaïe, qui dit de la part du Seigneur, qui a prédit ces choses? Qui, dès le commencement, les a annoncées et depuis longtemps? Tournez-vous vers moi, dit le Seigneur, et soyez sauvés. Ce qui veut dire aussi que dans le plan de Dieu, l'une des raisons pour lesquelles il a laissé les prophéties, c'est pour nous attirer à lui et pour être sauvés. Je ne voudrais pas terminer cette matinée sans prendre un moment pour lancer de la part du Seigneur un appel à celui ou celle qui est parmi nous et qui n'a pas encore mis sa confiance en Jésus-Christ, qui est encore perdu, qui est encore sur le chemin large qui conduit à la perdition. Le Seigneur, qui est le maître de l'histoire, veut aussi être le maître de ta vie. Veux-tu le choisir maintenant? Peut-être que tu diras, mais je ne me suis pas préparé pour ça, moi. Mais vous savez, beaucoup de personnes qui ont rencontré le Christ ne s'étaient pas préparées pour le rencontrer et pour être appelé par le Seigneur. Mais au moment où il est venu, ils ont dû choisir. Nous allons nous courber les uns les autres dans
le recueillement quelques instants. Chacun de nous, frères et sœurs chrétiens, frères et sœurs en la foi, nous prions pour celui ou celle qui est parmi nous et qui n'est pas encore venu à Jésus-Christ, pour qu'il cède aujourd'hui son cœur au Seigneur, parce qu'il est le Maître, parce qu'il est le seul Sauveur. C'est moi qui ai annoncé ces choses, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui sauve. Et hors de moi, il n'y a pas de Sauveur. Notre Dieu, notre Père, tu nous as permis de survoler ensemble pendant quelques instants la parole des prophètes et de chercher dans l'actualité l'accomplissement de ces prophéties. Merci Seigneur, parce qu'elles nous encouragent les uns et les autres dans le combat de la foi, à persévérer, à ne pas céder, à ne pas reculer. Mais maintenant, nous voulons prier tout spécialement pour celui ou celle qui est parmi nous, Seigneur, et qui n'a pas encore plié les genoux devant le Dieu qui a créé toutes choses, devant le Dieu qui est venu sur cette terre, en Israël, à Jérusalem, et qui s'est livré pour nous, pour le pardon de nos péchés. Seigneur, nous te prions pour lui, pour elle, pour eux maintenant, pour qu'ils viennent, qu'ils se laissent convaincre par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de la parole, par le Seigneur, pour venir à la croix. Si c'est votre cas, peut-être je vous propose ces quelques paroles, ou les répétez dans votre cœur, ou les vôtres, peu importe. Mais ne quittez pas cette salle sans avoir pris votre décision. Aujourd'hui, pendant la 77e convention des Églises libres et de la mission. Peut-être quelqu'un qui doit dire, si c'est votre cas, dites-le dans votre cœur, intérieurement, silencieusement. Mon Dieu, je m'approche de toi en ce jour. Je veux répondre à ton appel. Ce n'est pas la première fois que tu m'appelles. Et jusqu'à ce jour, j'ai résisté. Aujourd'hui, je viens. Je te demande pardon pour mes péchés. Dites-le dans votre cœur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que j'ai vécu jusqu'à ce jour comme si tu n'existais pas. Je n'en ai fait qu'à ma tête. Parfois même en allant à l'église, mais en te gardant hors de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'ouvrir les portes de mon cœur parce que tu es le Seigneur, parce que tu reviens bientôt et que je veux être prêt pour ton retour. Je te demande pardon pour mes péchés. Je reçois aujourd'hui le Seigneur dans ma vie. Je crois en sa mort. Je crois en sa mort pour mes péchés. Je crois en sa résurrection. Je ne comprends pas tout, mais je crois. Aujourd'hui, je fais confiance. Je ne m'appuie plus sur moi-même, sur ma propre sagesse. Je me confie en Jésus-Christ. Je l'accueille comme mon Sauveur et comme mon Seigneur dans ma vie. Et à partir de ce jour, je veux vivre avec lui. Et pour lui, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes nombreux ce matin, peut-être que certains ont pris cette décision dans leur cœur. Peut-être un seul parmi nous, peu importe. Si c'est votre cas, parlez-en autour de vous. Dites-le à l'ami avec lequel vous êtes venu, ou pasteur de votre église qui est peut-être là. Moi-même, si vous le voulez bien, je ne cours pas après vous, mais peut-être le partager, de dire aujourd'hui, moi je suis venu. Ne gardez pas votre décision secrète. Parlez-en, dites-le autour de vous, à quelques-uns peut-être en commençant, et puis pour le dire plus tard à beaucoup d'autres. Les décisions se prennent dans le cœur, dans le secret, mais doivent se faire connaître. Dites-le autour de vous, si aujourd'hui, en cette matinée, vous avez pris une décision pour Jésus-Christ, et qu'on puisse se réjouir dans votre club de jeûne, dans votre église, dans les camps, dans votre famille, de ce que vous êtes venu aujourd'hui à Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent et vient à Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse les uns et les autres. Je vous remercie pour votre attention.